VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. La Mauritanie institue une journée nationale de lutte contre l'esclavage qui sera célébrée chaque année le 6 mars. Objectif, aider à éradiquer ce fléau qui perdure en dépit de son abolition depuis 35 ans. Nathalie Barge.
Le Conseil des ministres, réuni ce jeudi, a adopté un projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes, indique le gouvernement dans un communiqué publié par l'agence mauritanienne d'information. Selon l'AFP, citant un haut fonctionnaire, cette journée sera commémorée tous les 6 mars, date à laquelle la Mauritanie a adopté en 2014 une feuille de route pour l'éradication de l'esclavage, élaborée avec l'appui de l'ONU. Cette journée devrait en principe être observée pour la première fois dimanche prochain, selon le fonctionnaire. En 2015, la Mauritanie a adopté une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme contre 5 à 10 ans auparavant. Fin 2015, elle a annoncé la création de 3 cours criminelles spécialisées en matière de lutte contre l'esclavage qui siégeront à Nouakchott, Nema et Nouadhibou. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie, mais le phénomène persiste selon des ONG, notamment sous la forme de cessions gratuites par les descendants d'esclaves d'une partie de leur récolte à d'autres personnes, se considérant toujours comme leur maître.
Élection présidentielle au Bénin, 33 candidats s'affrontent dimanche pour la magistrature suprême. Le président sortant Thomas Boni-Yayi ne se représente pas après 2 mandats, conformément à la Constitution. Les 5 favoris, le premier ministre sortant Lionel Zinzou, 2 des plus gros hommes d'affaires locaux, Patrice Talon et Sébastien Adjavon, et 2 banquiers internationaux, Abdoulaye Bio Tchané et Pascal Irénée Koupaki. L'enjeu majeur dans la course à la présidence, les attentes de la population sur le plan socio-économique. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Cotonou le professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo.
Après 10 années de gouvernance du président Boni Yayi, le Bénin fait face à une crise morale, crise éthique, à un effondrement de sa vie politique, du système partisan. Et l'enjeu majeur, c'est de trouver les bonnes réponses qu'il faut aux problèmes qui se posent dans le pays et au fond de savoir quel est parmi tous ces candidats celui qui est capable de porter les aspirations des Béninois et de trouver des approches de solutions aux problèmes, surtout aux problèmes économiques et sociaux qui se posent dans notre pays.
Donc le successeur constitue en lui-même un enjeu majeur.
Le successeur constitue un enjeu majeur parce que, comme vous le savez, heureusement ou malheureusement, l'élection va probablement se jouer contre les indépendants parce que les 5 qui forment le quintet de tête, parmi lesquels je pense probablement que les Béninois choisiront le chef de l'État, ces 5 n'appartiennent pas à des formations politiques. C'est 5 indépendants, ce qui projette encore plus violemment la crise du système partisan béninois que désormais, le Bénin semble fonctionner comme une démocratie privée, une démocratie personnelle, où seules les ambitions personnelles, seules les aventures personnelles triomphent parfois de l'organisation des partis politiques. Donc, cet enjeu a vu quand même à la classe politique béninoise complètement reconfigurée, d'autant que vous avez la majorité au pouvoir qui s'associe à l'opposition, ou vice-versa, l'opposition qui s'associe à la majorité pour soutenir un candidat, Lionel Zinzou, en face duquel vous avez plusieurs autres hauts cadres du pays et parfois des magnats, ce qu'on appelle des opérateurs économiques qui tiennent un peu le poumon économique du pays. Donc vous avez en gros une élection qui va se jouer malheureusement en dehors des formations politiques parce qu'aucun parti politique n'a présenté de candidat sorti de ses rangs. C'est pour moi un signe de l'échec de notre système partisan et de ce que l'élection qui va se jouer et le mandat qui va s'ouvrir à partir du 6 avril est un mandat de chantier, est un vrai mandat de chantier. Et celui-là doit avoir l'intelligence nécessaire pour rassembler les Béninois, mais surtout pour trouver les solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui se posent à notre pays.
Est-ce que les règles de jeu sont-elles verrouillées?
L'élection au Bénin est très ouverte. Elle est très ouverte. Personne ne peut dire, et je ne connais vraiment pas d'analyste, qui peut avancer que tel gagnera et tel ne gagnera pas. C'est pour vous dire que le jeu est ouvert et que malgré le contrôle de la Sénat par les institutions ou parfois, on dit, par la majorité, on ne peut pas dire que le président Boni Yayi a verrouillé le jeu pour que triomphe son candidat. Personne ne peut le dire. C'est une élection totalement ouverte, je dirais incertaine. Et c'est ça qui fait parfois la beauté de la démocratie.
Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel à Cotonou. Au Mali, la brigade de gendarmerie de la localité de Kémasina a attaqué hier après-midi par des hommes armés, selon des sources sécuritaires. Les assaillants ont incendié le bâtiment et un véhicule des gendarmes. Pas de victimes à signaler. Kémasina se trouve dans la région de Ségou, dans le centre du pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Élection présidentielle au Tchad. C'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle se prononcera sur les recours introduits par les candidats dont elle a rejeté les dossiers pour diverses raisons. Parmi la dizaine de candidatures écartées figure celle de l'opposant historique Ngaoledji Yorongar et de l'ancien premier ministre de la transition Fidel Mungar. Écoutez ce qu'en pense le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
Il me semble qu'il y a certains rejets qui ne répondent pas aux critères objectifs de violation de la loi électorale, notamment les questions, par exemple, de non-présentation de photos ou d'oubli, qui n'est pas une question intentionnelle, par exemple, pour le candidat Yorongar Ngaoledji, ou bien pour d'autres également, pour qui n'ont pas de raisons fondamentales assez sérieuses pouvant justifier le rejet à ce niveau-là.
Le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. En RCA, trois personnes tuées hier et trois autres grièvement blessées dans des violences à Bambari, dans le centre-est du pays. Des accrochages y ont opposé des anti-balaka à des peuls armés, non loin d'un camp de déplacés en plein centre de la localité. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'affrontement s'est produit jeudi sur le site des déplacés de Fed et de la Sangaris à Bambari. Selon une association locale de la société civile, trois civils dont une femme ont été tués après avoir été retenus en otage par des peuls armés assimilés aux éléments du général Ali Daras, chef de l'UPC, l'unité du peuple centrafricain, une branche de l'ex-Séléka. Trois autres personnes blessées sont prises en charge à l'hôpital de la ville. La même association accuse la mission onusienne locale qui, selon elle, n'est pas intervenue à temps pour sauver la situation. Elle s'inquiète aussi de l'indisponibilité des forces de sécurité intérieure, notamment la gendarmerie centrafricaine, à venir au secours de la population civile. Côté forces onusiennes en Centrafrique, aucune réaction officielle n'est encore enregistrée. Fin février, un commandant de l'UPC a accusé les anti-balaka d'avoir violé le pacte de non-agression signé entre les deux rivaux en tuant deux membres de la communauté musulmane à une vingtaine de kilomètres de Bambari. Accusation rejetée par la coordination des anti-balaka, mettant en cause un autre groupe armé. Cette nouvelle tension intervient alors que les différentes communautés de Bambari commençaient à enterrer la hache de guerre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Corne de l'Afrique, des experts américains sont arrivés en Éthiopie pour aider ce pays à faire face à sa pire sécheresse des 50 dernières années. Le point avec Lionel Gaïma.
Ils sont une dizaine de membres de l'équipe de réponse aux désastres de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à avoir débarqué à Addis Abeba cette semaine. Leur mission, coordonner la réponse américaine à la sécheresse qui dévaste l'Éthiopie. Ils seront rejoints dans les prochains jours par des spécialistes de la logistique, des nutritionnistes et des experts en eau et assainissement. Il s'agit pour l'administration américaine de prévenir un désastre humanitaire majeur en Éthiopie et de préserver les gains chèrement obtenus par ce pays en matière de développement, a expliqué l'administratrice de l'USAID, Gail Smith, dans une déclaration. Lors de sa visite de l'année dernière en Afrique, le président Barack Obama s'était rendu en Éthiopie. Il a fait de la sécurité alimentaire une des priorités de sa politique en matière de développement, déclarant en 2013 que mettre un terme à la famine en Afrique relevait d'un impératif moral.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, un coup de projecteur sur le tout dernier débat télévisé dans la course républicaine à la présidence.
De 17 candidats au départ, il n'en restait que 4 à Détroit ce jeudi soir pour le 11e débat des primaires républicaines diffusé sur la chaîne Fox News. Donald Trump a été attaqué immédiatement sur sa carrière d'homme d'affaires. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, s'est attelé à saper sa réputation en insistant sur les faillites de certains de ses casinos, les entreprises ratées de l'Empire Trump ou le procès civil d'ex-étudiants de l'ex-université Trump qui vendaient des cours sur l'immobilier et l'entrepreneuriat.
Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes, a répondu Donald Trump sur la défensive. Modérateurs et rivaux ont souligné durant l'émission des contradictions et revirements du favori qui peine à persuader l'ensemble des conservateurs qu'il est bel et bien l'un des leurs.
Merci Michel Joseph pour cette analyse.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.